Au chapitre 16, deuxième livre des rois. La 17e année de Pékach, fils de Remalia, Akas, fils de Jotham, roi de Juda, régna. Akas avait 20 ans lorsqu'il devint roi, il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel son Dieu, comme avait fait David son père. David en fait n'est pas son père, c'est son ancêtre. Tout se réfère à David, hein, si vous voulez, pour les rois, jusqu'à Jésus. Il marcha dans les voies des rois d'Israël, il fit passer son fils par le feu, donc il sacrifie, prend par les pieds, le fracasse contre le rocher, le brûle, à Baal, à Moloch, à Malcom, à Yeshoutan, tous des dieux, des divinités. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines, et sous tout arbre vert. Ouais, les arbres verts, ça s'appelle les térébintes, hein, l'essence de térébenthine, les térébintes, ça a une odeur un peu spéciale. À force d'être en tous ces arbres-là, ça monte un peu à la tête. Et il y avait des femmes qu'on appelait des prêtresses, et bon, ben, on couchait avec, soi-disant pour être en communication avec Dieu, les dieux, c'était plutôt avec les démons. Mais enfin, même dans notre société, on prend les démons pour Dieu, souvent. Ça se répand de plus en plus. De plus en plus, moi, je rencontre des gens, quand ils viennent à Christ, etc., qui ont été touchés par le monde démoniaque. Ça devient une guerre différente, pour finir. Il faut lutter pour que les gens, même après qu'ils aient accepté Christ, ils soient débarrassés de tout ça. C'est pas simple. Alors, ça, c'était au chapitre 16. Au chapitre 17... la deuxième année d'Akaz, roi de Juda, Osée, fils d'Éla, régna sur Israël en Samarie. Il régna 9 ans. Et il va faire mal aussi. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Vous pouvez lire tous. C'est comme ça. C'est un vrai toin-toin. Et regardez l'histoire des rois de France, de tous les dirigeants. Mais c'est pas la tarte à la crème. Hein? Et on s'étonne qu'il y a des sanctions de Dieu sur ces peuples-là, avec la guerre de 70, 14-18, 40-45. Mais les sanctions sont là. Pourquoi est-ce qu'en Suisse, il n'y a pas eu la guerre? Oh, c'est parce qu'il y a du fric en Suisse, etc. Parce qu'ils s'arrangent avec tout le monde. Non. En Suisse, il y a eu des réveils spirituels. En veux-tu, en voilà. À fond la caisse. Il y a plein de centaines d'églises évangéliques. On prie. On jeûne. Ne regardez pas la TV pour connaître la vraie Suisse. Il y a eu des réveils spirituels intenses. Et on joue à la critique sur la Suisse. On ne voit que l'extérieur de la noix, la coquille. On ne voit pas ce qu'il y a eu dans l'histoire de la Suisse. Alors, au chapitre... 17, la deuxième année d'Akas, on l'a déjà vu, Osée régna sur Israël. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est que Salmanazar va arriver, verset 3. Salmanazar va arriver, verset 3. Eh oui, pendant que lui, Bonaparte, se payait toutes les femmes, pendant qu'il dominait sur le peuple, qu'il faisait construire des châteaux en Italie, pendant qu'il profitait de la richesse avec tous les bourgeois de France, le peuple français souffrait. Eh bien, la Prusse a attaqué à Sedan. Et pendant 10 ans, la Prusse a mené Louis Bonaparte par le nez. Ils ont été jusqu'à, avec les évêques catholiques, à Versailles, sacré le duc de Prusse, empereur d'Allemagne. Vous voyez à quel point ils ont été roulés dans la farine. Ils ont sacré le chef de la Prusse, empereur d'Allemagne. Pourquoi? À charge de revanche. Quand Napoléon a attaqué toute l'Europe et est passé à travers tous les pays allemands, il les a bafoués. Et il s'était fait nommer par les évêques et par les bourgeois de France empereur. Louis Bonaparte, à charge de revanche, l'histoire humaine, l'histoire du diable. Et ça ne peut pas encore si simplement que ça. C'est que le peuple français à Paris souffrait entre 1860 et 70. Il souffrait. Ils souffraient de la faim, ils souffraient de tous ces riches, soi-disant, de la Révolution française. Ils auraient dû être des démocrates. Ils n'avaient que l'apparence de démocrates, comme aujourd'hui. Et pratiquement, le peuple de France souffrait. Il y avait l'insurrection à Paris, qu'on appelait la Commune. Pour mater l'insurrection, qu'on appelait la Commune, l'ancêtre du mot communisme, la Prusse a donné un coup de main pour maîtriser le peuple français, le faire taire, pour que la bourgeoisie catholique tienne encore la tête de la France. Et en échange de services rendus, on a donné l'Alsace et la Lorraine. Vous avez des histoires comme ça ici, pour Israël, entre la Syrie et Israël, entre l'Égypte et Judas Benjamin. Ça s'appelle tout ça des abominations des hommes. Alors, je vous invite à lire régulièrement la Bible. La culture biblique donne de la sagesse. La culture biblique donne de la distance, donne de la réflexion sur ce qui se passe aujourd'hui. Si vous ne le faites pas, vous êtes gravement en faute devant Dieu. Ne me demandez pas, moi pasteur, de vous donner toute l'instruction que Dieu peut vous donner tous les jours quand vous lisez la Bible. Je ne peux pas rattraper le retard. Vous devez vous mettre à lire la Bible régulièrement, les amis, pour savoir ce qui s'est passé dans l'histoire, ce que Dieu veut et ne veut pas. Donc, au chapitre 17, verset 5, le roi d'Assyrie parcourut tout le pays, monta contre Samarie, qu'il assiégea pendant 3 ans. Et hop, déportation. Quand ils sont déportés, qu'est-ce qui se passe? Au verset 8, ils suivirent les coutumes des nations. Verset 11, ils brûlèrent des parfums sur les hauts lieux, ben là où on faisait de la prostitution sacrée, hein, on faisait des sacrifices humains. Vous savez qu'on vient d'ouvrir, je ne vais pas dire où, une maison de prostitution, animaux, êtres humains. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui, vous savez. Moi, je suis déjà tombé dans le ministère sur des cas de gens qui avaient des relations avec des animaux. Quand j'ai commencé à être pasteur, je ne croyais pas que ça existait. J'avais lu dans la Bible, dans Lévitique, chapitre 16 à 21, tous ces trucs-là. Je me dis, c'est pas possible. Mais si c'est possible, dans le ministère, on rencontre de tout. Vous croyez que je peux aller dormir dans mon lit à 10h du soir, regarder la TV? Mais alors là, le diable me bousille au premier coup. Hein. On n'est pas pasteur plus de 2-3 ans. On ne peut pas. Il faut se mettre devant sa Bible jusqu'au moment où tout est nettoyé et puis aller dormir. Au verset 13, l'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, revenez de vos mauvaises voies, observez mes commandements, mes ordonnances, en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères, que je vous ai envoyée par mes serviteurs et prophètes. Ils n'écoutèrent point, ils raidirent leur cou comme leur père qui n'avait pas cru en l'Éternel leur Dieu. Ils rejetèrent ses lois, l'alliance qu'ils avaient faite avec leur père et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent après des choses de néant et ne furent eux-mêmes que néant, et après les nations qu'ils entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Vous imaginez ça? Et regardez l'Europe maintenant. Verset 18. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel leur Dieu. Ils se firent deux veaux en fonte. Ils fabriquèrent des idoles d'Astarté. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux, donc les démons, hein, les puissances spirituelles. Ils servirent Baal, donc le dieu de Tyr et Sidon, un grand empire phénicien. On faisait des sacrifices humains. Forcément que c'était intéressant, la Phénicie était un grand Luxembourg qui dirigeait toute la Méditerranée pour le business, qui profitait de tout le monde comme le Luxembourg. Je fais des parallèles pour vous rendre compte qu'il faut prendre la Bible au sérieux. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles, se livrèrent à la divination, aux enchantements, et se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Se vendirent, ça veut dire volontairement on se vendait esclaves. Est-ce qu'il y aurait une saine révolte ici pour ne plus aller servir les banquiers? qui pillent le monde, qui construisent des buildings là-bas. Google, hein, 35 hectares bientôt un centre, qui rentre jusque dans le fond des ménages, dans toutes les institutions avec ses services de renseignement. Google va construire là un grand site de 35 hectares. Tous ceux qui veulent bien avoir de l'argent enverront leurs fils et leurs filles travailler là. Au service de qui? De Baal. Pour moi, c'est Baal. Vous ne pouvez pas enseigner n'importe quoi à vos enfants. Vous ne pouvez pas discuter de n'importe comment devant vos enfants à table, à l'école. Il faut leur montrer qu'il y a le chemin de Dieu et tout le reste va en enfer. Je prends le verset 22. Les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en détournèrent point jusqu'à ce que l'Éternel eût chassé Israël loin de sa face. Et Pan, déportation, hein, comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs et prophètes. Déjà Moïse avait annoncé. La déportation a lieu en 722, en 1430, dans Deutéronome 28. Il l'avait annoncé. S'il n'obéissait pas, Dieu n'est pas un traître qui nous prend par derrière. Il a tout dit. En le lisant, on est en face. Et nous, on va prendre la gauche ou la droite. C'est notre responsabilité, les amis. C'est pour ça que l'enseignement des églises baptistes, c'est, il y a l'appel de Dieu, il y a la révélation, il y a la grâce de Christ à la croix, et dans l'autre sens, il y a la réponse personnelle et responsable du croyant. Dans la doctrine calviniste, il y a, ben, si j'obéis pas, c'est parce que Dieu ne m'a pas appelé. Si j'obéis pas, c'est parce que je n'ai pas reçu la grâce. Oh, celui-là, il suit bien Dieu, c'est parce qu'il a vraiment été un... C'est un élu, il a reçu la grâce. Ça, on peut se débiner avec ça. Parce qu'on met tout sur le dos de Dieu. Si ça ne marche pas, c'est Dieu. Dans la doctrine des églises baptistes, il y a la grâce, la révélation, la puissance de Dieu et la responsabilité du croyant entière devant Dieu. Comme la Bible demande ici aux citoyens d'Israël et de Juda, ils devaient répondre. Prenons de toujours au deuxième livre des Rois, chapitre 17, verset 32 et 33. Ils craignaient aussi l'Éternel et se créèrent des prêtres des hauts lieux parmi tout le peuple. Donc, alors qu'on ne peut pas se créer des prêtres, ils vont s'en créer. Il y a ceux qui descendent de Aaron, et puis Sadoc, parce que c'est le seul branche qui était fidèle, Sadoc. Sadoc, Sédec, ça veut dire sainteté. Alors, pourquoi est-ce que dans le christianisme, en l'an 365, Cyprien de Carthage invente le prêtre dans l'église chrétienne? C'est pas mieux que là. Il n'y avait pas de prêtre dans les églises chrétiennes. Il y avait la parole de Dieu, il y avait des responsables, des hommes mariés, pour que la vie communautaire de l'église soit orientée dans le sens de l'évangile. Mais il n'y avait pas d'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Le prêtre est un intermédiaire. Chez les évangéliques baptistes, le pasteur n'est pas un intermédiaire. Il ne donne pas le salut. Il ne fait pas ça sur quelqu'un pour qu'il ait le salut. Ou mettre la main pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Par la parole de Dieu, donne le Saint-Esprit et le salut et la vie éternelle. Par la parole de Dieu. Et il n'y a pas besoin d'êtres humains, des intermédiaires, qui vont abuser après de leur pouvoir sur les consciences faibles. Deuxième livre des Rois, chapitre 17, verset 33. Ils craignaient l'Éternel, ils servaient en même temps leur Dieu, d'après la coutume des nations, d'où on les avait transportés. Ils suivent encore aujourd'hui leurs premiers usages, ils ne craignent point l'Éternel, ils ne se conforment ni à leur loi, ni à leur ordonnance, ni à la loi, ni au commandement prescrit par l'Éternel aux enfants de Jacob. Vous voyez la situation, le marasme? Il faut faire attention de croire que c'est toujours dans le passé. Il faut bien analyser ce que nous faisons, ce que nous sommes. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à être fidèles et persévérants. Et si on s'illusionne sur soi-même, ça peut être très grave. Ils se sont illusionnés. C'étaient tous des braves gens. Oh, des braves gens qui faisaient suivant leur bon cœur tout ce que, etc. Comme aujourd'hui. Quand j'ai fait mes études de théologie dans le cours de dogmatique, à la dogmatique, au séminaire catholique, j'avais à cette époque-là, c'était des gens 23, il y avait des profs qui lisaient la Bible et qui enseignaient. Je me rappelle, Marc Redin, qui était prof de dogmatique, il a dit, qui croyez-vous qu'on va trouver en enfer? 99,99% des braves gens. Les voilà les braves gens. Et aujourd'hui, les braves gens, c'est la même chose. Attention d'être brave. Le Seigneur ne nous a pas demandé d'avoir une bonne conscience de nous-mêmes. Il nous a demandé de vivre dans la repentance et l'amour de Christ, de sa parole, dans l'obéissance. Ça, c'est pas une question de bravoure, ça. C'est d'autosatisfaction, d'une image que je me forge de moi-même. Elle est bien quand même, je suis bien, moi, aux yeux de Dieu. Il va me prendre, pas. Non, c'est pas ça. C'est pour ça qu'ils se sont plantés. C'était pas des super méchants. C'était pas des super véreux, des super vicieux. Pour la plupart, c'était des braves gens qui se levaient au matin pour bosser et qui suivaient leurs instincts et tout ce que papa et maman leur avaient appris. Et que monsieur le prêtre racontait. Et ça, on ne regardait pas plus loin que ça, parce qu'autrement, ça faisait peur de se remettre en question. Et quand arrive le prophète, il secoue tout le bazar. Tout. C'est la grande grâce d'Israël d'avoir des prophètes. Regardons le chapitre 18. La troisième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akas, roi de Juda, régna. Donc nous avons là un roi, c'est phénoménal, hein, vers les années... ...630 avant Jésus, 625, un brave homme hein, qui va avoir à côté de lui, chaque fois qu'il a peur, chaque fois qu'il ne sait plus où il en est, il prie. Et il demande au peuple de prier. Et la deuxième chose, il cherche à ce que son peuple obéisse à Dieu. Et il n'est pas tout à fait parfait dans tout, mais bon, quand l'envahisseur arrive, et que Jérusalem est entouré, l'envahisseur... le menace réellement, il y a 180 000 hommes, des Syriens, ils sont là, et ils parlent en hébreu à la foule, à tous les gens qui sont sur les murailles pour défendre la ville. Donc ils arrivent à mettre le doute, l'angoisse chez les gens. Parce qu'ils parlent la langue, il y avait sans doute des gens, des juifs corrompus qui étaient avec eux, et pratiquement... Ézéchias attrape peur, tous les officiers attrapent peur. Ils vont ouvrir les portes, les citoyens vont ouvrir les portes, on va se faire prendre, on va se faire massacrer par les Syriens. Et donc, ils courent vite au temple et ils trouvent Ésaïe en prière, qui leur dit non, l'Éternel garde Jérusalem. Demain, ils sont partis. Et le lendemain, la peste est arrivée, 180 000 hommes de l'armée de Syrie étaient morts. Et quand le chef y repart, qu'il adore Dieu, dans le temple, à Damas, il se fait assassiner par ses deux fils. L'affaire était réglée. Dieu met son doigt où il veut, quand il veut. Et vous voyez, Israël était gardé par Dieu. Pas par Ézéchias. Ézéchias était dans ses petits souliers. Et l'homme, le prophète, Ésaïe, qui était dans la prière, savait ce que Dieu pensait de son peuple. Ésaïe a été un prophète durant la vie de quatre rois, dont deux étaient propres, deux étaient tordus. Et il a enseigné des choses simples. Lisez le livre d'Ésaïe. Quand vous allez avoir fini votre vie, combien de fois aurez-vous lu Ésaïe? Une fois complètement, deux fois? 50 fois qu'il faut l'avoir lu. Parce qu'on parle de Christ au moins 25 fois dedans. 50 fois pour connaître la pensée de Dieu révélée par la bouche et la plume d'Ésaïe. On parle de Christ à tout bout de champ dans le livre d'Ésaïe. C'est un livre de base. Et donc, c'était cet homme-là qui était vraiment en union avec le Seigneur qui lui a dit, non, non, tu n'as pas à te tracasser. Demain, c'est fini. Donc, vous voyez l'autorité du prophète. L'autorité du prophète qui n'était pas toujours dans les guindailles des rois, etc. Mais quand les rois tremblent et qu'ils sont de bonnes conditions devant Dieu, ils vont trouver le prophète. Aujourd'hui, les hommes politiques ne vont pas trouver les prophètes du Seigneur. Ça leur coûte très cher de tomber sur quelqu'un qui réellement est libre, indépendant par rapport à eux et parlerait d'eux comme Dieu le demande. Ça leur coûte très cher. Ils préfèrent ne pas les fréquenter et surtout qu'il n'y en ait plus. Comme dans le royaume d'Israël, les 10 tribus du Nord, notre Europe fonctionne sans amour pour Dieu, sans amour, et amour des ténèbres. Alors, vous avez l'histoire au chapitre 18 d'Ézéchias, qui va être protégé, hein, du chef d'Assyrie, etc. Et ça dure un bout de temps, ça vaut la peine. Après Ézéchias, eh bien, il a un fils. Manassé, qui avait 12 ans, chapitre 21, devint roi. Il régna 55 ans. Alors, au contraire d'Ézéchias, Manassé, c'est... Alors là, c'est le super saboteur de tout ce qui est... il est contre Dieu à fond. C'est le super saboteur. Et il va faire énormément de choses. On va lire un petit peu. Chapitre 21, verset 2. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait détruits. Il éleva des autels à Baal. Il fit une idole d'Astarté. Astarté ou Asherah, c'est le nom d'une déesse qui apparaissait en blanc dans le temple de Jérusalem à l'époque de ce roi-là, qui est comme une femme en lumière, mais il y avait des milliers de statues partout. Et en fait, l'immense ville de Babylone, il y avait deux doubles enceintes de murailles et de tours, et la porte centrale qui était tournée vers Jérusalem, la porte centrale, c'était la porte de Ishtar, la déesse de Babylone. Et les juifs qui faisaient du commerce, qui voyageaient, avaient adopté Asherah, Ishtar, ça donnait Asherah, Astarté. Plus tard, ça a donné Artémis, Diane, et avec un empereur romain en 321, ça a donné Marie-Mère de Dieu. Un concile forcé avec les soldats romains, tous les évêques enfermés dans une salle, où on s'est battu, un évêque est mort de ses blessures, on a pris toutes les prières de cette petite dame, cette déesse, et reine du ciel, médiatrice, et on a mis Marie-Mère de Dieu au-dessus. L'histoire du diable est vieille et reste toujours actuelle. Alors, regardez bien, verset 4. Il se prosterna devant toute l'armée des cieux, donc les démons, les anges. Verset 4. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel lui dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux, dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il mit l'idole d'Astarté qu'il avait faite dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon, c'est dans cette maison et dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. C'est vraiment l'offense majeure. Hein? Et 55 ans, il va faire tout le contraire d'Ézéchias, son père. Ensuite, il y a Amon. Amon, chapitre 21, verset 19. Amon, 22 ans. Il devient roi pendant 2 ans. C'est pas mieux, c'est idem, comme son père. Ensuite, parce que la vie d'Amon a été très raccourcie, au chapitre 22, vous avez un gamin de 8 ans, de 8 ans qui devient roi. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jedida, fils d'Adajar de Boscat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il marcha dans toute la voie de David, son père, donc l'ancêtre. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Alors, il va s'attacher à faire la restauration du temple. Il va demander à tout le monde de mettre de l'argent et il va confier cet argent pour la restauration. Et puis un jour, en ramassant les pierres, les gravats, en ayant cassé toutes ces statues que Manassé avait mis et tout, on les a cassées dans la vallée du Cédron, toutes les statues d'Astarté. Dans les fouilles archéologiques, on en a retrouvé, effectivement, ces endroits-là. Et pratiquement, au verset 8, vous avez quelqu'un qui, tout d'un coup, arrive avec la Bible. Parce qu'on ne lisait plus la Bible. On ne lisait plus la Bible, oui. Le peuple de Dieu ne lisait pas la Bible. Vous savez, pendant combien de siècles, les pays latins du sud de l'Europe n'ont pas lu la Bible ? L'Inquisition a interdit la lecture de la Bible en 1067. Avec Jean 23, 1963, c'était autorisé. 9 siècles. Et au même moment, les protestants ne la lisent plus. C'est bizarre quand même. La plupart du monde protestant ne lit plus sa Bible. Et toutes les doctrines ont été ouvertes. C'est quand même bizarre tout ça. C'est souvent comme dans un couple. Il y en a un qui se porte bien, l'autre il dégringole. Puis tout d'un coup l'autre remonte et l'autre qui redescend. Mais c'est quand même bizarre en Europe. Quand le catholicisme était complètement avec plein de doctrines anti-bibliques et de choses qui ne sont pas bibliques, le protestantisme était propre. Et tout d'un coup, boum, tac. Et Hitler a bien eu facile, hein? Il leur a mis tous un ceinturon avec Godmituns, autant catholiques que protestants. On a foncé à travers le monde entier. Et chacun priait son Dieu et son Jésus-Christ de chaque côté. Vous voyez dans quel état l'Europe est maintenant? Il y a eu des chrétiens qui ont refusé, des chrétiens qui ont été au camp de concentration. Si vous aimez lire des choses comme ça, on a des livres ici, vous allez voir qu'il y a eu des courageux. Ils ont préféré donner leur vie. Ils ont résisté à Hitler au prix de leur vie. Alors, regardons bien au verset, chapitre 22, verset 8. Le souverain prêtre dit à Chaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Il quija donna le livre à Chaphan, et Chaphan le lut. Puis Chaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit, « Tes serviteurs ont amassé l'argent, etc. » Bon, ils ont fait leur boulot. Puis ensuite, il dit, « On a trouvé un livre. » Au verset 10. Et il le montre au roi. Alors, le jeune roi, il a 8 ans. Et vous vous rendez compte qu'un gosse de 8 ans, regardez comment il va réagir. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. On a offensé Dieu, il faut se repentir. Nous avons offensé tout le peuple et tous les rois ont offensé Dieu, il faut se repentir. Nos vêtements, nos pouilles sont sales. C'est pour ça que vous savez toujours dans les expressions de Paul, dans les Épîtres, dépouillez-vous des œuvres des ténèbres, dépouillez-vous. Tirez vos vieilles pouilles, vos vieux vêtements, plein de péchés. Revêtez Christ. Revêtez la sainteté de Christ. Revêtez le Saint-Esprit de Christ. Eh bien, regardez ce bonhomme. À quel point il est entier?
Il avait 18 ans.
Comment?
Il avait 18 ans. Il se marquait au verset 3, la 18e année du roi Josias.
Ah, il avait 26 ans alors. 8 plus 18. 26 ans. Donc, il a, pendant 18 ans de règne, il n'a pas vu la Bible. Il était attaché à Dieu, il aimait Dieu, il faisait restaurer. Et pendant 18 ans, on a trafiqué dans le temple, on a fait des travaux, on n'a pas mis le nez sur la Bible tout de suite. On n'avait pas demandé la couche de crasse qu'il y avait dessus. Et le mépris qu'il y avait eu. Parce que si elle avait été apportée, tiens, oh ben bon, 5 minutes... Une heure après, deux jours après, on l'a trouvé. Mais non, les amis, nos vies sont parfois comme ça. On a accumulé des péchés hein, plus haut que la maison ici, sur notre vie, et la parole de Dieu est en dessous. Il faut faire attention, les amis. Chapitre 23. Chapitre 23. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les prêtres, les prophètes, tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Ce que j'étais frappé au Bénin, c'est que quand il y a le culte, j'ai voulu voir. Hein. Bon, c'est des tôles, il y a des poteaux en bois, c'est des arbres parfois bien tordus, quelques ventilateurs, il fait très chaud sous les tôles. C'est pas fermé à l'entour. Et il y a beaucoup de chaises en plastique. Alors, deux heures avant déjà, il y a des hommes et des femmes qui prennent des balais. Ils ont fait des balais avec ce qu'ils ont pris dans la nature et ils nettoient, ils rangent tout. En silence. On ne parle pas de bêtises dans tous les sens. En silence. Je me suis dit, Seigneur, ils t'aiment ceux-là. Alors, je me suis mis à genoux, dans un coin, ils travaillaient. Et au fur et à mesure du temps, en silence, il est venu des centaines de personnes. Des centaines, ils venaient de partout, à pieds nus. Avec des vieux, des jeunes, des gosses, et pas un bruit, pas un bazar. Et après, on a commencé à chanter. On a commencé à louer le Seigneur pendant des heures. Des heures! Et il n'y a pas eu un gosse ou quelqu'un qui sabotait le culte. Les amis, je pense que si le roi Josias avait été là, c'était pas différent, c'était pas différent. Quand est-ce qu'on va revoir ça en Europe? C'est qui les sauvages? Ceux-là qui sont pieds nus au Bénin? Ou ici? Vous pouvez lire tout le chapitre 22, hein, et vous verrez que, 23, vous verrez qu'on massacre toutes les statues, tout le bazar, tous les lieux de prostitution. Alors, ce que je voudrais vous montrer, au verset 7, il a bâti les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel, où les femmes tissaient des tentes pour Astarté. Prostituées, E-S. C'est pas E-E-S. Dans la maison de l'Éternel, il y avait des maisons de prostituées masculines. Dans les lieux sur les collines des Térébintes, féminins. Yavol, vous avez compris ce qui pouvait se passer? Il n'y a pas eu besoin du gouvernement hollandais, belge et français pour faire ça. C'était déjà là. Pourquoi est-ce que vous trouvez dans toutes les divinités grecques, dans toute la mythologie grecque, par exemple, un corps humain avec une tête de taureau, ou un corps de cheval avec une tête d'homme. Pourquoi? Parce qu'il y avait des rites de prostitution animaux-hommes. Et que si on avait pu engendrer des êtres de ça, on l'aurait fait. Mais je suis certain qu'il y en a qui essayent déjà dans la génétique de le faire. C'est le diable qui est derrière tout ça. Et si ça marche, on va le montrer à TV, dans les revues. Quand vous irez dans une salle d'attente chez un docteur ou autre part, vous le trouverez. Parce que ça, c'est intéressant. C'est nouveau. Nous crachons sur la civilisation judéo-chrétienne ici en Europe. Mais vraiment, jusqu'au bout. Eh bien ici, ça s'est passé. Dans le peuple de Dieu même, on a craché sur Dieu, sur son œuvre, et il y a eu des prophètes. Allons toujours dans le chapitre 23, au verset 25. « Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, verset 25, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'y en a point paru de semblable. » Donc, il est vraiment attaché à ce commandement qui est dans le Deutéronome. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. » Rappelez-vous quand le jeune homme riche vient tout près de Jésus. Jésus lui dit, qu'est-ce qu'on t'a enseigné? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est un homme très religieux, sincère. Qu'a-t-on appris? Eh bien, il dit, tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de ton âme, de toute ta force. Et Jésus lui dit, tu as bien répondu. Et aussi, le commandement qui est sur une blague, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez donc bien que Josias, dirigé par le Saint-Esprit, Jésus dirigé par le Saint-Esprit, Moïse, qui dans le Deutéronome donne cet enseignement-là au peuple, dirigé par le Saint-Esprit, c'est toujours le même Saint-Esprit qui dit toujours la même chose. L'amour de Dieu, l'amour des autres, l'amour de la sainteté, mes amis. Pourquoi est-ce que j'ai voulu prendre aujourd'hui ce texte? C'est parce que je voudrais traiter du royaume de Dieu quand Christ est revenu. Mais ça peut être que de la vaste théorie, vivement qu'il soit revenu, on en a marre, etc., tout ce qu'il y a ici. Mais, les amis, le royaume de Dieu n'est pas donné à celui qui a déjà triché avant que Jésus arrive. Il faut être dans la situation de Josias pour recevoir le royaume de Dieu. C'est ça que je devais insister aujourd'hui. Ne me faites pas dire que c'est un bisounours, le royaume des bisounours. Un dieu gâteau, un Père Noël qu'on tire sur la barbe et ça tombe au matin dans les souliers. C'est pas le dieu de l'évangile. Alors, à qui est adressé le royaume de Dieu? Évidemment, en premier lieu, à Israël. C'est ce Dieu qui a décidé comme ça. À toutes les nations ensuite. Ok? Alors, j'aborde déjà la réflexion de comment les apôtres qui ont vraiment reçu une sainte instruction de la part de Jésus et dans le Saint-Esprit, qui travaillent pour le Seigneur, Jésus était au ciel, comment ils vont s'adresser à cet Israël auquel Josias s'est adressé? Bon, prenons les actes des apôtres. Dans les actes des apôtres, ça veut dire les actions des apôtres, vous allez avoir, pendant plusieurs chapitres, du chapitre 1 à la fin du chapitre 7, des interventions de Dieu par les disciples, par les apôtres, pour Israël. Pour Israël. Et puis après, c'est des interventions de Dieu pour les nations. On ira voir comment Dieu intervient pour les nations, pour nous. Et puis après, on pourra aborder réellement, voilà, à la venue du Seigneur Jésus, voilà ce qu'il vient établir. Pour que ce ne soit pas du bidon, que ce ne soit pas des mythes, des choses qu'on s'entretient. Non, nous sommes appelés à mener une vie sainte aujourd'hui, en vue de la venue de Jésus. C'est ça mon but. Alors, dans les Actes, au chapitre 2, au jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ce sont tous des gens qui étaient disciples de Jésus et les 11 apôtres. Oui, les amis. Plus celui qu'ils ont choisi, juste à la fin du dernier, le dernier verset du chapitre 1, Matthias. Les 11 apôtres, plus un nouvel apôtre, Matthias. Plus tous les frères et sœurs, quelques centaines, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Tous des juifs, hein. Je ne suis pas jaloux. Je ne suis pas jaloux du tout. Alors, le Saint-Esprit va venir chez eux et il va parler à travers la bouche des disciples, des apôtres, à tous les juifs venus de tous les pays pour la fête de Pâques. Et regardons d'où ils venaient. Au verset 9, « Parthe ». Donc c'est une région qui est au nord de la de l'Iran vers c'est pas facile, il faudrait une carte ici tout le temps pour pouvoir se situer. Med, c'est l'Iran, et Elamit, c'est une partie de l'Iran aussi, ceux qui habitent la Mésopotamie, Syrie, Irak, hein, la Judée, la Cappadoce, c'est une partie de la Turquie, le Pont, l'Asie, c'est la Turquie, la Phrygie, une partie non, non, pas du tout, la Phrygie c'est une partie à cheval sur la partie, vous voyez la partie de la Turquie actuelle, un peu plus, là sur la Bulgarie et la Roumanie. Alors, la Pamphylie, l'Égypte, la Pamphylie c'est une région de Turquie, l'Égypte, le territoire de Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs, prosélytes. Prosélytes, c'est quoi? Ce sont des gens qui ne sont pas d'origine juive, mais qui aiment la loi juive, qui aiment Dieu, et qui appliquent les règles juives, et qui n'ont pas encore... Ils ne sont pas acceptés comme juifs. Mais ils sont honorés parce que... Pourquoi? Parce qu'ils donnent... Ils aident le peuple juif. Hein. Crée-toi. L'île de Crète, où il y a eu des tremblements de terre il y a quelques jours. Arabes. Donc les Arabes, hein, les descendants d'Ismaël. Les Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? De quelles merveilles? De Jésus, mort pour nos péchés sur la croix, selon les Écritures. De Jésus ressuscité. De Jésus vivant, selon les Écritures. C'est ça les merveilles de Dieu. La merveille de Dieu, c'est cela. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Donc, ils n'arrivent pas à comprendre. Et il faut vraiment, à ce moment-là, que Pierre et tous les autres mettent le paquet. Et regardez la vocation de toute cette communauté naissante. Ils vont vendre leur maison, leurs biens, pour que les gens qui sont là, qui sont des milliers, puissent rester longtemps, 2-3 mois, et être enseignés par les apôtres. Il fallait de l'argent pour acheter de la nourriture et tout. Ils ont tout donné pour que tous ces gens ne retournent pas sans être enseignés. Alors ils ont obéi à Jésus, Matthieu 18 à 20, faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire enseigner. Les enseigner. Ils ont accompli la parole. Et regardez, alors Pierre, au chapitre 2, au verset 14, Pierre se présente en avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Alors, il va prendre un texte de Joël pour expliquer pourquoi le Saint-Esprit est venu sur eux. Et puis, après ça, il annonce le retour de Jésus dans sa prédication. Hein? C'est quelques versets, c'est du verset 17 à 21. Lisez-le à la maison aujourd'hui, 2-3 fois. Vous allez voir, il y a le don du Saint-Esprit, la Pentecôte, et puis il y a le retour de Christ, là, en puissance, avec des signes sur l'univers. Alors, au verset 22, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein, arrêté selon la présence de Dieu, vous l'avez crucifié. » Donc, il dit... Dieu avait prévu la mort. Et Dieu a utilisé votre ignorance et votre péché pour que son fils paye vos dettes. Votre dette énorme. Elle est énorme depuis des siècles, des siècles. Des prophètes et des prophètes ont fait toujours le contraire. Énorme. Alors, vous voyez au verset 14, homme juif. Au verset 22, homme israélite. Au verset 29, homme, frère, c'est encore des juifs. Hein? Au verset 29, et au verset 37, homme, frère, c'est l'inverse maintenant, ce n'est plus Pierre qui dit ça, c'est les juifs qui sont touchés par la prédication de Pierre et qui disent aux apôtres, homme, frère, tout d'un coup, connexion est faite. Ils s'aiment, ils s'aiment. Est-ce que vous pensez, entre des chrétiens, réellement chrétiens, qu'ils soient blancs, noirs, jaunes, rouges, est-ce qu'ils sont frères s'ils ne s'aiment pas et qu'ils ne s'aident pas? On reconnaît les frères et les sœurs à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, comme Jésus nous a aimés. Eh bien, c'était la jonction est faite. L'œuvre de Dieu les a unis. C'est Dieu qui a donné cet amour. Et alors ils vont être baptisés, ils vont créer l'église, la première église, et le processus de sanctification, de rédemption de tous ces juifs continue. Au chapitre 3, on voit la guérison d'un homme à l'entrée du temple. Et puis tout d'un coup, ben, tout le monde se demande pourquoi il est guéri. Il y avait si longtemps, qu'il avait plus de 40 ans, il est là, handicapé, si mal, mais mal foutu. Et regardez au verset 12, Pierre dit... Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété nous eussions fait marcher cet homme. Alors Pierre va reparler encore du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et du prince de la vie. Il va reparler, verset 15, « Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. » Vous voyez, il insiste auprès d'Israël pour que cet Israël qui est si dur hérite du royaume des cieux. Si dur. Ils sont durs. Dans les réfugiés que nous avons ici, nous en avons eu deux fois. Il y en a eu tous les pays, hein, pendant presque 39 ans. Mais ce qu'il y a, il y en a eu deux qui étaient juifs. La violine. C'est dur comme ça. Hein. Plus facile de parler de Dieu qu'un musulman. Un descendant d'Ismaël. Hein. C'est bizarre quand même. Alors, un peu plus loin, au chapitre 3, verset 17, « Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. » Regardez l'amour, la miséricorde, la compassion de Pierre pour son peuple. Eh bien, reprenez le thème, relisez tous les chapitres de Josias. Regardez avec quelle patience Josias, avec quel amour il a aimé son peuple. Un vrai serviteur de Dieu sait très bien que le peuple qui entend la parole de Dieu ne veut pas l'écouter, ne veut pas la mettre en pratique. Un serviteur de Dieu sait très bien qu'il va devoir compter sur Dieu pour que la parole de Dieu soit aimée et mise en pratique. Un vrai serviteur de Dieu ne va jamais compter sur la beauté et la grandeur de l'humain. Parce que l'humain est pécheur. L'humain est pécheur. La seule chose qui peut changer l'humain, c'est la grâce divine. Le salut est donné par grâce. L'homme ne se sauve pas par lui-même. Et donc, vous avez été ignorants. Vous avez été ignorants. Regardez au verset 22. Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. » Vous avez vu, même Moïse vous a dit que Jésus était votre frère, que le Christ était votre frère. Il est né parmi vous et vous l'avez rejeté. Et il conclut au verset 26, chapitre 3, verset 26, « C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. » L'apôtre Pierre sait très bien le plan de Dieu. Il faut qu'Israël soit converti pour que le royaume de Christ sur terre soit établi. Soit établi. On va aller voir. Une des conditions, c'est la conversion d'Israël. Mais la conversion d'Israël ne se fera pas parce que les Juifs sont gentils. Regardez bien parfois comment ils se comportent avec les Palestiniens. C'est parce qu'il y aura une grâce en Israël, une grâce de Dieu. Tandis que Pierre, chapitre 4, que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les prêtres, etc. Hein? Eh bien, à ce moment-là, au chapitre 4, jusqu'au chapitre 7, il va parler à quelqu'un d'autre. Non plus à toute cette foule qui a entendu l'évangile, il y en a qui se sont convertis, il va parler au chef du peuple. Chapitre 4, verset 1. Les prêtres, les commandants du temple, les sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, etc. Alors, verset 8. Aujourd'hui, en Europe, les dirigeants sont mécontents quand un chrétien annonce l'évangile au peuple. Les dirigeants s'opposeront de plus en plus à ceux qui vont annoncer l'évangile aux citoyens français, belges, allemands, tout ça. Ils vont leur faire la vie dure. Chapitre 4, verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple, ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Que fait Pierre, que fait Jean, que font tous les apôtres? C'est mettre les gens en face de leur responsabilité. Et il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de haine. Il n'y a aucune haine à dire la vérité. C'est plutôt le vrai amour. Le vrai amour, c'est ça. Si j'aime vraiment les autres, ils ont droit à entendre la vérité. Et je dois les laisser décider eux-mêmes. Si je les aime vraiment, Dieu a laissé une conscience à chacun pour décider. Et je dois respecter le plan de Dieu. Chaque personne qui entend la parole de Dieu est libre et responsable. Alors, vous voyez toute la stratégie de Dieu, du Saint-Esprit, par Pierre, Jacques et Jean, c'est s'adresser d'abord à Israël. Au chapitre 5, vous avez quelques faux chrétiens, comme Ananias et Séphira, qui trichent. Plus tard, vous aurez Simon le magicien, qui avait été baptisé, qui se disait converti, et qui voulait acheter, donner des sous aux apôtres pour pouvoir imposer les mains. Mais vous avez quand même toujours, c'est les Juifs. C'est toujours l'action de Dieu envers les Juifs pour commencer. Et ça a quand même porté des fruits. Au chapitre 6, verset 7, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Est-ce que vous croyez que Pierre et Jean allaient s'attendre à ça? Est-ce que vous croyez que Pierre et Jean allaient s'attendre à que toute une flambée de prêtres, d'ennemis de Jésus deviennent des chrétiens? Ah, ils n'ont pas attendu de croire et de voir. Ils ont obéi à Dieu. Il faut annoncer, on annonce. Le résultat, peu importe. Et le résultat est venu après. Si le cultivateur qui va dans le champ, il amène son tracteur et ses graines, il dit, il sème, il fait tellement sec cette année-ci, il fait dégueulasse, il pleut tout le temps, c'est pas la peine de semer cette année-ci. Je rentre le tracteur, je ne sème pas, c'est pas la peine, je vais perdre mon fric. Il ne sème pas. Première chose, aussi bien la météo va changer, et puis, il n'y a pas de récolte. Deuxième chose, il n'y a rien à manger dans les magasins. Qu'est-ce qui fait que le paysan va dans le champ? Même celui qui ne croit pas en Dieu, quelque part il a la foi. Malgré dans la terre, l'eau et le soleil, il a la foi. Quand je passe sur le viaduc de Longwy, je reviens de France, je passe sur le viaduc, si je me dis, oulala, les ingénieurs ont mal calculé les fondations, oulala, les ouvriers ont mal serré les boulons, oulala, le pont il peut tomber au moment où je passe, mais je ne passe pas sur le pont. Or, vous voyez tout le monde qui passe, zoom, ils ont la foi. Ils ont la foi dans les ingénieurs, dans les maçons, dans les ferrailleurs, dans ceux qui ont fait tout, qui ont fait les garde-corps. Ils ont la foi dans quoi? Dans l'acier, dans le béton. Et ils n'ont pas la foi en Dieu, qui a fait le béton, l'acier, l'ingénieur et le maçon. Et oh! On a tout retourné à l'envers ici en Europe. Eh bien, les apôtres avaient la foi que Dieu pouvait changer une pierre qui traîne à terre en un enfant de Dieu, un disciple d'Abraham. Jean-Baptiste l'avait annoncé. Et effectivement, tous ces gaillards-là, regardez, chapitre 6, verset 7, une grande foule de prêtres obéissaient à la foi. Est-ce que nous ici, dans nos villages, dans nos villes, on a la même foi d'obéir à Dieu et de témoigner du Seigneur? Est-ce qu'on est le cultivateur qui dit, oh, cette année-ci, elle est dégueulasse, je rentre le semoir, je ne sors rien, je garde mes graines pour l'année prochaine. Ou alors je vais quand même semer, je... Bon, est-ce que nous sommes des chrétiens, comme le cultivateur qui ne va pas semer, ou comme le cultivateur qui va semer? Comme celui qui passe sur le pont, ou qui ne passe pas sur le pont? Vous voyez? Josias a eu le courage de casser toutes les statues, de parler, de faire lire la Bible, la Torah devant tout le monde, Et pendant tout son règne, ça s'est bien passé, mes amis. Jésus a le courage de venir sur la terre, qui est dominée par Satan, que dans, par des hommes qui aiment le péché. Jésus a le courage de venir. Il s'est fait tuer, il s'est fait rejeter, et Dieu l'a ressuscité en disant, vous l'aurez toujours votre Jésus. C'est lui dont vous avez besoin. Vous ne pourrez pas vous en sortir sans lui. Ça, c'est l'autorité de Dieu. Crachez encore aujourd'hui sur Jésus. Vous en aurez quand même besoin, vous plierez le genou devant lui. Ou alors vous vous convertirez. Ça, Dieu lui-même a donné ses qualités à tous les prophètes. Les vrais prophètes ont les qualités de Dieu. Ils sont fidèles à leur mission. Fidèles aux missions. Fidèles. Nous allons dans Romains, chapitre 11, et puis j'arrête. Si nous étions... Les amis, pourquoi on fait une école, nous, ici? Pourquoi on se casse le nez? Ça fait un mois qu'on bosse comme des dingues, ici. Hein? Du bas en haut. Vincent refait toute l'électricité. Encore dans l'après-midi, on n'a pas fini. Il y a l'inspecteur qui vient demain matin à 8h. Donc, dans l'après-midi, lui et moi, on s'y remet. Alors que, bon, c'est rare. On travaille jamais le dimanche. Pourquoi? Parce qu'on sait que Dieu est fidèle. S'il y a 10, 15 enfants, 20 enfants, et qu'il y en a la moitié de sauvés, ou les trois quarts, et que parmi ceux-là, il y en a un qui annonce l'évangile plus tard, c'est la gloire de Dieu. Si tous ces enfants réussissent leur vie de couple, leur vie professionnelle, en honorant Dieu, et en respectant les autres, on a apporté au monde quelque chose. On a apporté du sel sur la terre pour la saler, pour que l'ivraie, le chien d'an ne pousse plus. Oui, moi j'ai mis du sel sur mon champ, du sel marin. Et le chien d'an livré, 90% disparaissait. Quand il y a le chrétien engagé, le mal recule. Même que le chrétien serait sourd-muet, le mal recule. Romains chapitre 11. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avant. Alors moi, je voudrais vous donner une autre comparaison. La maison prière là-bas, on a encore volé une barrière, on a encore démoli. Bon, qui y croit encore maintenant ici? L'école, vraiment, qui y croit vraiment que l'école, ça doit marcher? Ça marche, mes amis. Eh bien, quand Jésus a envoyé les prophètes à toutes les époques, qui croyait vraiment qu'Israël serait une fois sauvé? Dieu, hein? Parce que s'il fallait attendre que ouvrir les yeux, mais il n'y avait rien pour croire. Tout incitait au contraire à douter. Si vous regardez notre société, Vous, ici en Europe, vous ne pouvez dire qu'une chose, le chrétien, ça ne sert à rien. De toute façon, on n'arrivera à rien. Vous êtes incrédule, vous doutez, puis vous descendez, et vous n'avez pas d'huile dans votre lampe, vous n'avez pas de lumière pour conduire votre vie. Alors, je vous pose la question. En 93, je finis l'Institut biblique. Non, déjà avant. 89, j'arrête le boulot, je fais l'Institut biblique. Marie-Hélène a travaillé. Il n'y avait pas d'aide pendant plusieurs années. On a fait des réunions 6 ans à Montmédy. Et puis tout d'un coup, Marie-Hélène, il y avait les enfants, il y avait les réfugiés. Elle était au bout du rouleau. J'ai dit, écoute, je vais prier. Au 1er juillet, si Dieu le veut bien, je te le dirai, il se chargera de nous. J'ai passé des heures à prier, je lui ai dit, tu peux arrêter ton boulot, et même pas demander chômage, ça ne sert à rien. À la fin du mois de juillet, on avait la première paye convenable de chrétiens de France et des États-Unis. Ça, c'est jusqu'à aujourd'hui. Alors je vous pose la question, c'est pas parce qu'on est meilleur, c'est simplement parce que Dieu aime la région. Que Dieu aime la région et veut qu'il y ait des âmes sauvées. C'est pas parce qu'on est meilleur. Mettez ça de côté. C'est pas parce qu'on est les plus beaux et les plus forts qu'on marche sur l'eau. Rien du tout de tout ça. C'est simplement que dans la région, Dieu veut sauver des âmes. Et depuis des années, il y a des gens qu'on n'a jamais visités qui nous envoient de l'argent. Ils nous envoient de l'argent pour qu'on continue le chemin. Alors, les défis de Dieu sont bien plus intéressants que de jouer à la tombola, au loto, au tiercé, ou de mettre des sous dans un compte en banque. Les défis de Dieu sont toujours relevés par Dieu. Ils sont sûrs et certains, ils sont gagnants. Si Dieu n'avait pas créé la graine du tournesol, il n'y aurait pas de tournesol. Depuis des milliers d'années, la première graine de tournesol donne toujours des tournesols. Regardez, le bouillon blanc là, celui qui monte là. Si Dieu n'avait pas créé la graine du bouillon blanc, on peut soigner la bronchite avec. Le tournesol, on peut faire en mettre dans la salade. Mais pratiquement, si Dieu n'avait pas cru la première graine qu'il a fait, il n'y aurait pas de tournesol aujourd'hui, il n'y aurait pas de bouillon blanc. Tout est basé sur les fondements de Dieu, la fidélité, la puissance, la sainteté de Dieu. Donc, quand quelqu'un se met au service de Dieu, si réellement il est appelé, qu'il fasse confiance à Dieu. Maintenant, ce n'est pas forcément pour un ministère spécial. Si quelqu'un donne sa vie à Jésus, si quelqu'un veut plaire à Dieu, qu'il donne sa vie à Dieu, il est comme une graine qui donnera des fleurs pendant des générations. Celui qui donne à moitié sa vie à Dieu, une moitié de graine de tournesol ne donne pas un tournesol. Il faut que la graine soit entièrement graine. Elle soit selon le programme de Dieu qu'il a créé pour le tournesol. Qu'elle soit pour le programme de Dieu pour le bouillon. De la même façon, si vous donnez votre vie au Seigneur, vous êtes un tournesol, vous êtes un bouillon blanc, vous êtes une rose. C'est pour Annette ça. Annette, t'es comme une rose, oui. Hein? Alors, vous êtes comme un coquelicot. Et on peut retrouver des graines de ce coquelicot 500 ans plus tard encore, dans les talus. C'est ça le plan de Dieu. Dieu est fidèle. Si vous faites ce que vous devez faire, Dieu est fidèle pour le faire continuer. Sans vous. Malgré vous, par vous. C'est ça la grâce de Dieu. Romains 11. Ne désespérez jamais de la puissance de Dieu, de sa fidélité, les amis. Chapitre 11, verset 2. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte d'Élie comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Je suis resté seul. Moi tout seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Le pauvre Élie. À un moment donné, il se retourne sur lui-même. C'est foutu. C'est foutu. Il se retourne sur lui-même. Il doit toujours être centré sur Dieu. Et il ne va pas. S'il est centré sur Dieu, il va se rendre compte qu'il y a 7000 personnes comme lui dans la région. Il ne les connaît pas, tant pis, mais il y en a 7000. Regardez le verset suivant. Quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Ça veut dire, mon petit pote, je t'aime, je m'occupe de toi. Mais il y en a des autres, autre part, je m'occupe d'eux aussi. Tu n'es pas tout seul. C'est mon œuvre, c'est pas la tienne. C'est mon œuvre, c'est pas la tienne. Toi, tu es comme la graine de tournesol dans le champ. Il y a des autres tournesols à côté. Il y a des autres bouillons blancs. Il n'y a pas qu'un arbre dans la forêt, il y a beaucoup d'arbres. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas que toi, il y a beaucoup d'autres. Un jour, quand je vais revenir, je vais t'ouvrir les yeux et tu vas tous les voir. Et au paradis, devant moi, dans mon royaume, tu vas voir qu'il y en a des milliards. Mais je ne les ai pas vus sur terre. Ben oui, parce que tu étais incrédule et centré sur toi-même. Centré sur toi-même, tu ne peux plus rien voir. Verset 5. De même aussi dans le temps présent, il y en reste selon l'élection de la grâce. Verset 12. Si leur chute, donc leur incrédulité, leur désobéissance, a été la richesse du monde. Ah oui, parce que les juifs devenus chrétiens ont dû fuir. Ils étaient persécutés par les juifs. Leur chute a été la richesse du monde, et l'évangile s'est répandu. Leur amoindrissement, la richesse des païens, donc leur péché, quoi, le refus de Jésus, la richesse des païens, les autres nations, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous? Regardons verset 25. Je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère. Verset 25. Mystère, ça veut dire réalité, que Dieu tire le voile pour que vous connaissiez. C'est quelque chose que Dieu nous enseigne, mais qui existe, et que pas humainement je ne peux pas comprendre. Je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, mystérion, afin que vous ne vous regardiez point comme sage. Allez, allez. Reste à ta place, moi je sais bien où je mène mon peuple, mon troupeau, mes âmes, mes élus. Fais confiance, Élie. Tu crois que tu es tout seul, il y en a 7000 autres. Alors, pourquoi tu abandonnerais le travail que tu as commencé ici, dans cette région qui est si difficile? Pourquoi elles abandonneraient le projet de l'école? Pourquoi ils abandonneraient mes gens de prière? Pourquoi? Parce que tu crois que tu es tout seul? Ou est-ce que tu es lire ça dans la Bible? Tu es tout seul ou tu es avec moi? Je ne peux pas te montrer qu'il y en a des autres? Frères, je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère, afin que vous vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés. Ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Abraham, Isaac, Jacob. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Dieu ne change pas d'avis quand il a décidé de sauver quelqu'un. Ce que je voulais dire, c'est que le petit Josias, de 8 ans, qui avait un arrière-grand-père excellent, Ézéchias, il avait un grand-père et un père tordu, super tordu. À qui il a regardé? À Dieu. Il n'a même pas connu son arrière-grand-père. À qui devons-nous regarder, les amis? Au Seigneur. C'est lui le roi du royaume. C'est lui qui conduit son royaume. Mais si mes lunettes sont en bois, je ne vois rien. Je ne vois pas le royaume. C'est ça quand Esaïe et Élie étaient découragés. Ils se croyaient tout seuls. Ils ont tous abandonné tout le monde. Dieu lui a dit, mais je suis avec toi. Puis il y en a 7000 autres. Allez, continue ta marche, avance. Qu'est-ce qu'il a dit à Josué? Il a dit à Josué, pourquoi restes-tu prostré là à terre? Va, lève-toi. Va avec les forces que tu as. Conquiers le pays que je te donne. Alors, il n'y a pas de raison de dire nous sommes une petite église, on n'arrivera à rien du tout. Il n'y a pas de raison de dire Dieu ne nous aide pas, on ne voit pas où ce qu'il nous aide. Tout ça, on ne donne que la main au diable quand on le fait. Vous savez ce que Paul a dit dans l'épître aux Romains, chapitre 1, verset 16, le juste, c'est celui qui pardonnait ses péchés, le juste vit par la foi. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.
Amen.
Qui veut prier et chanter?
Celui qui est en Jésus, une pleine confiance.